Radio Okapi.
Insécurité dans l'Est de la RDC. Le ministre de la Défense nationale promet d'appliquer les textes régissant la collaboration entre les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC. Gilbert Kabanda s'exprime ainsi à la suite des manifestations anti-MONUSCO en cours dans le Grand Nord du Nord Kivu. Le ministre de la Défense nationale est notre invité ce matin. C'est en principe aujourd'hui que débute la campagne anti-Covid en RDC, telle qu'annoncée par l'équipe de Riposte. Entre-temps, le pays compte plus de 28 890 cas confirmés, 745 décès et plus de 25 000 personnes guéries. Dans ce journal, les grandes péripéties de cette maladie depuis son apparition en RDC. Madame, Messieurs, bonjour. Le ministre de la Défense nationale a affirmé que le fondement de la mission lui confiée par le président Félix-Antoine Tshisekedi consiste à rétablir la confiance entre les soldats et les officiers FARDC. Il a dit dans une interview exclusive accordée hier à Radio Okapi. Gilbert Kabanda indique par ailleurs qu'il va appliquer les textes régissant la collaboration entre les casques bleus de la MONUSCO et les FARDC. Le ministre de la Défense nationale s'exprime au micro de Pascal Masirika.
Je pense que les règles d'engagement de la MONUSCO devraient tenir compte et être fondées sur la capacité de nos forces armées à s'assumer. Est-ce que la MONUSCO doit intervenir ici ou intervenir là-bas? Est-ce qu'il doit tirer ou ne pas tirer? Ces règles-là seront modifiées selon la capacité des forces armées. Si la capacité est élevée de nos forces armées, il est évident que les règles d'engagement de la MONUSCO seront suffisamment faciles à appliquer. Il n'y aura pas beaucoup de difficultés pour la MONUSCO. Mais si les forces armées continuent à être ce qu'elles sont aujourd'hui, il est évidemment certain qu'on va demander à la MONUSCO des choses qui probablement ne devraient pas être demandées à une force internationale.
Entre-temps, à Goma, la Société civile Coordination provinciale du Nord Kivu se prononce par rapport aux effets des manifestations qui ont causé la perte en vie humaine à Nyiragongo la semaine dernière. Après analyse de la situation, cette structure citoyenne recommande aux services de sécurité de tout faire pour que les auteurs matériels et intellectuels impliqués dans ces actes soient retrouvés et qu'ils répondent de leurs actes. Mathieu Ilunga nous en dit plus.
La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu hausse les tons. C'est un rapport aux manifestations des jeunes qui ont dégénéré et causé la perte en vie humaine dans la partie nord de la ville. Elle argumente que manifester est un droit garanti par la constitution de la RDC, mais la vie humaine est sacrée et le respect des droits humains sont aussi les droits qui doivent scrupuleusement être respectés et honorés partout. Elle recommande la promotion de la culture de paix et la cohésion sociale. John Banyene, président de la société civile Nord Kivu.
Les marches de Goma ont débouché à une situation qui a entraîné la population dans une tension communautaire. On peut parler des tribalons ethniques et ça a causé beaucoup de morts d'hommes, voire même de blessés, chose que nous condamnons avec la dernière énergie, raison pour laquelle nous sommes en train de recommander à la population d'avoir l'esprit de tolérance et cette culture de la cohabitation pacifique. Et là, nous sommes en train d'interpeller la jeunesse qui ne doit pas accepter d'être manipulée par qui que ce soit.
Monsieur Bagnan dit aussi que le gouvernement et ses services de sécurité de tout faire pour rechercher et dénicher les fauteurs de troubles qui leur répondent de leurs actes à la justice. Mathieu Ilunga Chambou Omonachebe, Goma, Radio Okapi.
Du côté de l'Ituri, cet ultimatum lancé samedi à Bunia par le coordonnateur de la société civile Force Vive de cette province, adressé au président de la République, si le gouvernement central ne trouve pas de solution à la crise sécuritaire que connaît l'Ituri, la société civile Force Vive va décréter 3 journées ville morte à partir de ce lundi. Dans une interview à Radio Okapi, Dieudonné Lossa affirme que les services de sécurité n'arrivent pas à jouer leur rôle. Chaque jour, ajoute-t-il, des innocents sont tués par des miliciens à Djougou et à Irumu. Avec des maisons incendiées, Dieudonné Lossa, président de la société civile Force Vive de l'Ituri, s'exprime au micro d'Ezekiel Mouzalia.
Il y a une baisse totale des signaux de sécurité à la province d'Ituri. Même hier, il y a eu l'attaque sur Fataki toute la journée. Jusqu'aux 19h passées, il y en avait à Nyakounde. Si les autorités ne prennent pas des dispositions adéquates, la population va aller dans des journées de villes mortes parce qu'on s'est dit finalement, nous sommes déjà morts, nous n'avons plus d'approvisionnement à vivre comme à produits manufacturés. La RNVC, c'est la seule route qui alimentait la ville de Bounia. Donc, du moment où cette route est coupée, du moment où il n'y a plus la vie le long de cette route, parce que c'est lui qui passe, est censé mourir. Nous disons que si l'État ne prenne pas des dispositions, nous sommes prêts à accepter de mourir des faits ici à Bounia. Ce qui choque la société civile, c'est que les gens meurent. C'est ça que ça puisse inquiéter l'État. Les gens dorment maintenant dans des brousses. Il y a des cadavres qui sont abandonnés à plein air, à décomposition, sans être atterrés, alors que nous sommes dans un état de droit.
Je vous le disais en titre, la RDC s'engage dès ce lundi 19 avril dans la voie de la vaccination contre le coronavirus, cette pandémie qui a mis le monde à genoux après sa déclaration fin 2019 dans la ville chinoise de Wuhan. Au moment où la RDC s'élance dans cette campagne, le pays compte, selon les statistiques officielles datées du 16 avril, 28 894 cas confirmés dont un probable, 745 décès et 25 841 personnes guéries. Radio Capi revient ici sur les grandes péripéties de cette maladie du 10 mars 2020 au 19 avril 2021. Et c'est avec vous, Honoré Missenga Kalala.
Le 10 mars de l'année dernière, la RDC devenait le 11e pays africain à documenter un cas positif de Covid-19. Une semaine plus tard, la maladie prend de la vitesse, les chiffres se succèdent en passant du simple au double. Le 20 mars, le pays enregistre son premier décès lié au coronavirus. Le 24 mars, le président Félix Tshisekedi proclame l'état d'urgence sanitaire qui s'accompagne d'une série de mesures restrictives, dont la suspension des enseignements, la fermeture des frontières, l'interdiction des manifestations publiques et le confinement du centre-ville de Kinshasa, le poumon de toutes les activités administratives et économiques de la capitale. Le 22 juillet de la même année, l'état d'urgence est levé, la vie normale reprend progressivement selon les secteurs. À cette date, la RDC compte un cumul de 8719 cas confirmés de Covid-19, dont 201 décès. Seules 15 de ces provinces sont affectées. Le répit sera de courte durée. Octobre-novembre, comme dans plusieurs autres pays, la RDC entre dans sa deuxième vague de l'épidémie. Le 18 décembre, un couvre-feu est imposé, accompagné cette fois de seulement la fermeture des écoles et des universités. Le 3 mars de cette année, soit environ une année après, la RDC reçoit son premier lot de vaccins AstraZeneca. Un mois et demi plus tard, elle lance sa campagne de vaccination.
Province du Maniema, plus de 4000 personnes qui vivent dans les sites d'exploitation minière par drague dans les rivières Oulindi et Elila sont exposées à toutes sortes de maladies. Le chef de secteur de Beya qui alerte sollicite l'intervention des autorités provinciales. Jules Souedi Mwindo, chef de secteur de Beya, joint par Florence Kizalunga.
Le secteur de Beya lance un cri d'alarme à son excellence, monsieur le gouverneur de province du Maniema, à l'honorable madame la présidente de l'Assemblée provinciale, aux hommes gérants nationaux et provinciaux, qui est la société civile du secteur de Beya, de diriger une commission mixte composée de leurs membres respectifs, accompagnés des chefs de groupement, des professionnels de la santé, des zones de santé Kalima et Pangi, et les agents du service des mines sur les deux rivières Oulindi et Elila, où il est observé un engouement de plus ou moins 4000 personnes, soit plus ou moins 2000 personnes par site minier autour des activités de drague, avec les conséquences prévisibles contre la santé des communautés. Il s'agira de procéder à la sensibilisation de la population sur le respect et l'application scrupuleuse des mesures barrières, la lutte contre la transmission du COVID-19 et les VIH/SIDA.
Direction la province du Bazouélé. La route nationale numéro 4, axe Kisangani-Bouta, un véritable chemin de la croix pour les camionneurs et autres usagers, en cause le manque d'entretien ou de réhabilitation, couverte autrefois en une journée ou en deux au maximum. Il faut actuellement 2 ou 3 semaines pour parcourir cet axe routier long de 324 kilomètres et c'est au terme des efforts considérables pour extirper un engin des multiples bourbiers qui le parsèment. Reportage signé Jacques Moukonkolé.
Érosion, bambous et bourbiers caractérisent cette route qui n'existe plus que des noms. À 100 km de Bouta, une vingtaine de véhicules sont bloqués depuis 2 semaines. Un camionneur exprime sa colère. Nous regrettons parce que nous payons les taxes pour la route. Péage, PCVTM, lettre de transport de Transcom. Mais il n'y a rien que le gouvernement provincial fait pour arranger la route. En prévision des préliminaires de l'Exeta dimanche prochain, un inspecteur dit avoir pris une moto pour ne pas préjudicier les candidats autodidactes.
En tout cas, il n'y a pas moyen. Je devais venir même à bord de ma Jeep, mais la Jeep est restée à Boutin. C'est pourquoi j'ai pris la moto.
Les chauffeurs eux-mêmes sont aussi à la base de ces mauvais états de route, explique un autre camionneur.
Le grand problème, c'est vraiment de l'entretien d'elle. Parce qu'à l'époque, il y avait brigand de la route. Puis la capacité des véhicules aussi, ce n'est pas vraiment approprié. Tu as un véhicule de 10 tonnes, tu charges 20 tonnes.
Les moyens nécessaires font défaut actuellement pour réhabiliter cette route, confie un cadre de l'Office des routes. Néanmoins, certains commerçants demandent au gouverneur de la Tchopo et du Bazouélé de s'arranger pour remettre cet axe routier en état permanent de praticabilité. Jacques Mkonkolé, Bouta, Radio Okapi.
Il s'ouvre demain à Kinshasa jusqu'au samedi 24 avril prochain la conférence de la zone de libre-échange continentale africaine. Pour le sénateur Papi Bazego, cette conférence doit permettre à la RDC de s'engager pour le commerce transfrontalier et exiger que la RDC adhère à cette zone pour échange commercial permettra de construire les infrastructures routières et liant les différents pays africains de la zone avec les provinces voisines de la RDC telles que le Bazouélé et le Haut-Touélé. Le sénateur Papi Bazego l'a dit dans une interview accordée hier à Radio Okapi. Il est au micro de Richard Junior Kamunga.
Il y a quelques temps, au niveau du Parlement, nous avons fait passer l'adhésion de notre pays, la République démocratique du Congo, dans la zone de libre-échange continentale. Mais vous savez que le Congo, depuis un temps, ou depuis toujours, n'a jamais, n'est-ce pas, anticipé les choses. Le Congo attend subir et commencer soit à se préparer par la suite. Puisqu'il n'est pas tard, il n'a jamais été tard pour faire le bien, c'est le moment aujourd'hui de mettre l'accent dans ce secteur d'infrastructure, n'est-ce pas, pour permettre déjà à nos opérateurs économiques qui sont à l'intérieur du pays, comme aussi à Kinshasa, permettre à ce qu'il y ait facilitation, n'est-ce pas, dans les échanges commerciaux entre les opérateurs économiques à l'intérieur du pays, ce qui permettrait comme ça de développer déjà les échanges ou le commerce à l'intérieur, et de ce fait, donner la force pour résister à tout le choc qui pourrait provenir avec l'entrée massive des marchandises ou des biens provenant de pays étrangers par le fait que nous avons adhéré à la zone de libre-échange continentale.
La commercialisation à outrance des travaux scientifiques et des syllabus en milieu universitaire et scolaire ne fait pas seulement baisser le niveau de l'éducation au pays, mais elle accroît également le taux d'abus sexuels en RDC. C'est ce qu'a déclaré en tout cas Didienne Bunga, chef de division provinciale du genre au Congo central. Elle l'a dit ce week-end à Matadi dans le cadre de la campagne de sensibilisation sur les violences sexuelles basées sur le genre, campagne appuyée par le Fonds des Nations Unies pour la population. D'autres détails avec Nana Plurish Mambo.
À l'issue de cette campagne menée dans 5 sites de la province, dont Matadi, Mbanzangungu, Kisantu, Boma et Mwanda, Didienne Bunga affirme avoir enregistré beaucoup de problèmes liés aux violences sexuelles et basées sur les genres en milieu scolaire et étudiantin à cause de la commercialisation des travaux scientifiques et des syllabus.
L'achat des interrogations, l'achat de syllabus, l'achat des TP, c'est vraiment un problème. C'est tout un circuit par rapport aux violences faites à la jeune fille et aux habits de la jeune fille. Les interrogations peuvent être la même, pas payant quand même. Les jeunes filles doivent étudier, c'est bien. S'ils ont reçu, ils ont droit. Mais vendre les TP à tout moment, et c'est 4-5 TP pour un cours de 60 heures, ça c'est quand même compliqué.
À cet effet, la chef des divisions du genre du Congo central met en place le numéro 49-55-55, un numéro de secours qui, selon elle, permettra à la communauté de signaler des cas de violences sexuelles basées sur le genre. Aussi, ce numéro vert rapprochera les services compétents aux victimes des viols pour une prise en charge conséquente. En rapport avec cette vente exagérée des travaux scientifique et syllabus, Didienne Bunga planifie un plaidoyer auprès des responsables des universités et des écoles secondaires du Congo central en vue de voir comment réduire le nombre des TP et des interrogations payants, ainsi réglementer ce secteur et mettre ces jeunes filles hors d'habits sexuels. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité, Afrique monte.
Nous sommes au Sénégal. La nouvelle demande de permission déposée par la défense de Hissène Habré le 29 mars a été refusée hier. L'ancien président tchadien a été condamné en 2016 à perpétuité par une juridiction africaine pour crimes contre l'humanité lors de ses années au pouvoir de 1982 à 1990. Depuis sa condamnation, il purge sa peine dans la prison Cap Manuel de Dakar. Il avait déjà bénéficié en avril 2020 d'une sortie de prison de 60 jours accordée par la justice sénégalaise en raison de la pandémie de COVID-19 et ce, malgré l'indignation du collectif des victimes de son régime. Covid-19, l'Allemagne rend un hommage national aux victimes. Le président de la République allemand, Frank Walter, une autorité morale sans pouvoir réel, a organisé hier une cérémonie à la mémoire des victimes de Covid-19 en présence des plus hautes institutions de l'État. L'Allemagne pourrait franchir dans les prochains jours la barre de 80 000 victimes.
L'invité.
Comme annoncé, nous recevons le nouveau vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, affirme que sa première mission lui confiée par le président de la République consiste à rétablir l'éthique gestionnaire d'une armée moderne. Il pense par ailleurs que les règles d'engagement de la MONUSCO en RDC devraient tenir compte de la capacité des FARDC à s'assumer. Le ministre de la Défense nationale s'entretient ici avec Pascal Masirika.
Monsieur le ministre Gilbert Kabanda, bonjour.
Bonjour, monsieur Pascal. Calme, monsieur Ricard.
Est-ce que les Congolais peuvent espérer que votre avènement au ministère de la Défense nationale peut apporter un plus, un soulagement aux Congolais de l'Est de la RDC et principalement à ceux de Beni qui sont massacrés tous les jours par des présumés rebelles ougandais de l'ADF et autres?
Ils peuvent espérer parce que c'est d'ailleurs pour cela que le président de la République a notamment opéré un changement au niveau du ministère de la Défense nationale, parce que c'est sa première préoccupation, mettre fin au massacre de nos populations de Beni qui utilisent énormément notre pays. Ben, on va d'abord procéder à l'identification de cet ennemi. On ne peut pas mettre fin aux actes d'un présumé ennemi. Il faut d'abord l'identifier. On pourra mettre en place le mécanisme de le combattre.
Quid alors des autres groupes armés locaux, Maïmaï, FDLR, qui écument l'est de la RDC et qui font des ravages?
Il y a la catégorie des groupes armés qui ont déjà manifesté la volonté de se rendre. Il y en a même qui se sont rendus, mais que nous n'avons pas démobilisé pour des raisons que je ne connais pas. C'est une des premières tâches à laquelle je vais m'atteler. Il y a le deuxième groupe de ceux qui ne se sont pas rendus. Avec l'état-major général des forces armées, nous allons étudier un mécanisme pour qu'ils puissent se rendre, parce que nous ne pouvons pas pacifier le pays sans éradiquer les groupes armés.
Monsieur le ministre, ceux qui vous connaissent vous décrivent comme un homme intègre, un homme pétri des valeurs, un homme discipliné. La question de l'Est de la RDC pose la problématique de travail, collaboration entre le FARDC et les casques bleus de la MONUSCO. Quel angle d'amélioration de cette collaboration vous envisagez aussitôt que vous entamez vos fonctions de ministre de la Défense nationale?
Je vous ai dit que je suis dans cette armée depuis 50 ans. J'ai fait le diagnostic de notre armée, qui est d'ailleurs un diagnostic que je ne suis pas le seul à avoir fait, c'est que nous avons un problème de éthique dans la gestion de notre armée. C'est fondamental. Et l'éthique de gestion d'une armée, si elle n'existe pas, pouvait donner des moyens, pouvait amener la MONUSCO, parce que la MONUSCO n'est pas ici pour faire le rôle des FARDC. La MONUSCO est ici pour, ce n'est pas moi qui définis son statut, pour appuyer notre armée. Et ma première mission, c'est de rétablir l'éthique gestionnaire d'une armée moderne. Tout le reste, les moyens financiers, les moyens logistiques, l'administration, ainsi de suite, viendra si l'éthique
La question des règles d'engagement de la MONUSCO en RDC doit être renégociée, de mon point de vue, avec les autorités des Nations Unies et celles pourvoyeuses des ressources militaires de la MONUSCO. Est-ce que cette question est inscrite à votre agenda?
Je pense que les règles d'engagement de la MONUSCO devraient tenir compte et être fondées sur la capacité de nos forces armées à s'assumer. Est-ce que la MONUSCO doit intervenir ici ou intervenir là-bas? Est-ce qu'il doit tirer ou ne pas tirer? Ces règles-là seront modifiées selon la capacité des forces armées. Si la capacité est élevée de nos forces armées, il est évident que les règles d'engagement de la MONUSCO seront suffisamment faciles à appliquer. Il n'y aura pas beaucoup de difficultés pour la MONUSCO. Mais si les forces armées continuent à être ce qu'elles sont aujourd'hui, il est évidemment certain qu'on va demander à la MONUSCO des choses qui probablement ne devraient pas être demandées à une force internationale.
Votre dernier mot, monsieur le ministre, avant de nous séparer?
Je termine par dire, revenons aux fondements moraux de la communauté. Et l'armée est une communauté. Et je m'efforcerai d'appliquer cette moralité qui est la base de tout. La science et la technique ne viennent que jouer les seconds rôles.
Monsieur le ministre, je vous remercie et bon vent.
Je vous remercie, mon cher Bissimois.
Le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda, répondait aux questions de Pascal Masirika. Ce journal est terminé. Il a été supervisé par Ben Kabamba. Coordination de Richard Junior Kamunga. Merci de nous avoir suivis.